Chalim était compté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui sera une journée un petit peu spéciale parce que mon partenaire habituel André a dû s'absenter. Alors, je me suis dit, on va en profiter. Vous savez, c'est comme quand le pion a quitté l'étude, on va pouvoir s'agiter un peu. Et je vous propose aujourd'hui d'abandonner un peu l'histoire, entre guillemets, officielle avec cette accumulation de noms propres, de dates, de textes, en latin ou pas, d'événements qui se précipitent. Mais vous savez, il est difficile de résumer en quelques heures une histoire médiévale qui a duré 1000 années quand même. Hein. Donc aujourd'hui, c'est récréation. Et je vous propose pour la récréation, tout simplement ce que certains d'entre nous ont sûrement connu, une leçon d'écriture. Le livre, au Moyen-Âge, a connu une évolution tout à fait extraordinaire. Mais il n'arrive pas comme ça. D'un seul coup, les moines ne se décident pas à copier. Et cela nous propose déjà une introduction un peu plus large en se disant, mais comment a-t-on commencé à écrire? Pourquoi? Quelles sont les raisons objectives qui ont fait qu'on a transformé un son une idée, éventuellement, en petit dessin, simplifié ou pas. Alors, on peut considérer que l'écriture va se résumer en trois chapitres. Le premier, ça sera le support de l'écriture, sur quoi on écrit. Alors, je prends un exemple que je cite assez souvent. Il y a des tribus du Sahara qui avaient choisi d'une façon tout à fait intéressante, ils avaient choisi le support de l'écriture en fonction de l'importance du texte. Donc si c'était quelque chose de relativement futile, vous savez, comme vous faites sur la plage avec votre doigt, vous pouvez très bien écrire le nom de la personne que vous aimez bien avec un petit cœur et une flèche. Donc sur le sable, évidemment, eh bien, votre message va disparaître à la première vague. Et puis, à l'extrémité de la pérennité, on va avoir la pierre. On va donc graver dans la pierre le texte qui, de loin, est le plus important à transporter dans le futur. Hein. C'est ce qu'on appelle l'épigraphie. Je serais amené à utiliser quelques mots de ce type pour bien déterminer l'écriture en fonction du support. Ensuite, il y a avec quoi écrit-on ? On n'écrit pas de la même façon sur une tablette d'argile, sur un papyrus, que sur une poterie ou sur une pierre. Et puis, pour écrire, c'est bien beau. Si on ne grave pas, il faut avoir de l'encre. Alors, comment fabriquait-on son encre? Eh bien, tous ces éléments, on va essayer de les résumer assez rapidement. L'écriture est toujours associée à l'image. Je ne prends qu'une comparaison, c'est celle que l'on peut faire avec ce que vous connaissez sous le nom de hiéroglyphe, l'écriture sacrée, hein, dont on va suivre une lente évolution. Au début, eh bien, quand on veut écrire maison, eh bien, on dessine une maison, hein, c'est le plan d'une maison avec sa porte vue du dessus, en quelque sorte. Si on veut parler du Nil, du fleuve, eh bien, on fait des petites vaguelettes. Donc tout le monde comprend qu'il s'agit bien du fleuve ou de l'eau éventuellement. Mais petit à petit, les choses se compliquent, surtout quand vous voulez écrire, par exemple, « Eh bien, ce matin, j'étais de bonne humeur, mais le prêtre m'a mis en colère. » Bon, difficile de dessiner tout ça. Et on va passer tout doucement de ce qu'on appelle l'idéogramme, c'est-à-dire qu'on va dessiner eh bien, la représentation de l'objet, ou éventuellement un monsieur très en colère avec les cheveux sur la tête, mais on va dessiner l'idée que l'on veut faire passer par l'écrit. Et petit à petit, on va passer au phonogramme, c'est-à-dire qu'on va dessiner le son. Hein. On va dessiner le son, enfin les voyelles ou les consonnes. Certaines langues se passent d'ailleurs des voyelles. Hein. Entre autres, on le verra pour les hiéroglyphes, mais le sujet n'est pas celui-là quand on parle évidemment du Moyen-Âge. D'autres. Alors, sur quoi écrit-on ? Pour les Égyptiens, puisque je parle des Égyptiens, vous savez très bien qu'il y a bien sûr la pierre, Mais c'est pas sur ce sujet que je vais insister. Je vais parler du support souple, le papyrus. Hein, tous les gens qui vont faire une croisière sur le Nil vous rapportent en général un beau souvenir avec un papyrus sur lequel on a peint quelques hiéroglyphes. Alors c'est quoi le papyrus ? Bien, c'est une plante qui pousse dans les marais, hein, pensez au delta du Nil, qu'on appelle savamment le Cypierus papyrus. Moi je l'appellerais la plante à tout faire. Bah oui, parce que on consomme sa sève, hein, parce qu'elle est sucrée. On fait griller ses racines. On peut le tresser pour faire des corbeilles, on peut faire des nattes ou des cordes. On l'utilise comme mèche pour les chandelles. On peut aussi l'utiliser pour calfater les bateaux. On peut le tisser pour confectionner des vêtements. On peut le brûler comme encens parce qu'il a une odeur assez particulière. C'est moins qu'on puisse dire. J'ai essayé, je ne suis pas tout à fait fanat, mais bon, chacun ses envies en termes de parfum. On peut faire des bandages pour soigner. Ça a des propriétés, comme on dit savamment, héménotiques, c'est-à-dire ça va arrêter les saignements. On peut le brûler aussi pour faire de la cendre caustique. On verra quelle utilisation on pourra faire de cette cendre. On s'en sert également comme papier d'emballage. Et on décore aussi les momies en faisant une couronne de papyrus, par exemple. Vous voyez donc, c'est une plante à tout faire que les Égyptiens vont utiliser, entre autres, pour écrire. Il s'agit là, bien sûr, du support. Il y a quand même un problème avec le papyrus. Hein, alors le papyrus, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lamelles de ce roseau qu'on a ouvert et qu'on a juxtaposées l'une à côté de l'autre. On peut éventuellement les croiser en deux couches. Hein, on fait une espèce de damier, en quelque sorte. Puis ensuite, on va les écraser au maillet. Comme ça, le suc de la plante qui va s'exprimer va coller chaque lamelle l'une avec l'autre. Hein. Et les feuilles ainsi obtenues sont ensuite lissées. Alors, parfois, c'est avec un bâton d'ivoire ou parfois avec un coquillage ou parfois aussi, on va les coller avec d'autres pour obtenir des rouleaux. Hein, donc, pour avoir une grande surface pour écrire. Donc voilà pour le support. Maintenant, il faut écrire. Eh bien, on va utiliser là aussi, on va utiliser aussi le roseau, hein, que l'on va couper, le calame en quelque sorte, avec une encre noire ou une encre rouge. On aura l'occasion de revenir évidemment sur la composition des encres ultérieurement. Donc, on peut faire ce qu'on appelle le volumen. Hein, c'est-à-dire, c'est une longue surface de papyrus que l'on va ensuite enrouler sur des bâtons de bois ou d'ivoire. Et on va pouvoir conserver ce volumen dans des boîtes cylindriques. Bien, peut-être vous avez déjà vu lors de reportages à la télévision, dans les synagogues, on voit parfois les officiants se promener avec, évidemment, la Torah, avec ces deux rouleaux. Et donc, eh bien, on tourne d'un côté et on dévide de l'autre, et on peut lire jusqu'à l'extrémité du rouleau l'ensemble du texte. C'est intéressant pour la conservation, c'est pas très pratique, évidemment, pour la conservation, d'une part, et pour la lecture. Hein. Vous imaginez, vous avez manqué une phrase au milieu du rouleau. Je plaisante, mais c'est un peu ça aussi. Donc, c'est pas très pratique. Et on verra que plus tard, évidemment, quand on veut être discret, on va éviter d'utiliser donc le volumen. D'autres supports vont être utilisés par la suite. Nous connaissons par exemple bien le liber. On va être amené souvent à parler de végétal. Vous voyez, on a parlé de roseau en Égypte. Là, on va parler du liber. Vous savez, la partie sous l'écorce de l'arbre, eh bien, qui se détache sous la forme de pelure, un peu, pensez au bouleau. Eh bien, on va récupérer ce liber pour cette écorce, entre guillemets, de bouleau, pour écrire. Et je vous ferai remarquer que liber va donner plus tard livre. Hein, c'est l'origine du mot livre. Et puisque je veux faire le malin, en quelque sorte, je pourrais vous dire que d'autres termes vont ainsi être dérivés qui concernent l'écriture et le livre. Je pense au mot « ligne ». Une ligne, c'est tout simplement un fil de lin que l'on va tendre pour tracer la ligne sur laquelle, par la suite, on va pouvoir écrire. Et puis, encore plus facile, vous tournez les feuilles. Hein, on ne peut pas faire plus naturel. Et je continuerai avec les pages, qui désignent un morceau de vigne, enfin, etc. Donc vous voyez que cette littérature associée au livre est très proche, évidemment, de la nature. Ben, on utilise, évidemment, ce qu'on a autour de soi. Au niveau du minéral, on peut utiliser la pierre. On en a déjà parlé. Pensez, évidemment, aux monuments égyptiens. On peut utiliser la tablette d'argile. Et là, va naître dans cette région martyre, hélas, qui correspond à l'Irak, qui correspond à la Syrie actuelle, hein, la Mésopotamie, entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. On va inventer un nouveau système, à la fois à partir du support et à partir de l'écriture. C'est ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme, en forme de coin. C'est-à-dire qu'on prend une tablette d'argile, l'argile est encore malléable, et avec un roseau, taillé, coupé, donc perpendiculairement, on va appuyer sur la tablette d'argile en différentes positions pour écrire. Et on a retrouvé ainsi, dans les fouilles, en Mésopotamie, des milliers de tablettes d'argile empilées les unes sur les autres et qui avaient tendance évidemment à s'agglutiner. Il y a plusieurs formes d'écriture, mais là n'est pas mon propos. On pouvait aussi, sur cette surface tendre, je dirais, écrire avec un stylet, hein, c'est-à-dire une pointe qu'on utilisera d'ailleurs un peu plus tard dans les tablettes de cire. J'en profite aussi pour faire un peu d'étymologie. Il est fort probable que si vous vous débrouillez assez bien avec votre stylet, c'est que vous avez du style, hein, bien entendu. On peut écrire sur de l'ardoise. Moi, j'ai connu dans mon enfance, n'est-ce pas, la craie. En réalité, c'était du plâtre. Hein. Heureusement, ça abîmait un peu moins l'ardoise que l'on tenait. Hein. Et donc, on peut utiliser l'ardoise pour écrire. C'est l'avantage, évidemment, ensuite, de pouvoir être effacé. Hein. Donc, ça, c'est. Mais au Moyen Âge, parce que c'est la période qui nous intéresse, ce qu'on utilisait le plus pour les écritures qui ne nécessitaient pas d'être conservées, très longuement, on utilise la tablette de cire. La tablette de cire, c'est un support, alors ça peut être du bois, ça peut être un support minéral, sur lequel on va déposer de la cire, pensez à la cire d'abeille, hein, que l'on va bien lisser. Et ensuite, on va prendre le stylet que j'évoquais tout à l'heure. C'est un stylet qui a une forme un peu particulière. D'un côté, il y a une pointe pour graver, et de l'autre côté du stylet, vous avez comme une pelle, hein, c'est un plat. Et je vais vous dire à quoi il sert ce plat. Donc, j'ai devant moi ma tablette de scie. En général, c'est pour faire des comptes. Mais des comptes, c'est O-M-P-T-E, c'est-à-dire de la comptabilité. Hein, on n'est pas dans la littérature. Et bah oui, les hommes se mettent à écrire, évidemment, c'est parce que ce sont avant tout des comptables. Hein. On va compter les gerbes de blé, on va compter les animaux, etc. Et puis, beaucoup plus tard, au Moyen Âge, on tient les comptes de la municipalité, et entre autres, à la bibliothèque de Beauvais. Il y a encore conservé des tablettes de cire qui correspondent au compte de la ville, au compte COMTES, la comptabilité de la ville de Senlis. Alors l'avantage de la tablette de cire, d'abord ça coûte pas cher, on écrit et puis là, ah je me suis trompé ou je veux écrire autre chose, au lieu de prendre l'éponge qui servait à enlever la craie sur l'ardoise, hein, que moi j'ai connu, eh bien dans ce cas-là on prenait le plat, c'est-à-dire l'autre côté du style, il y a un plat, et on aplatissait l'écriture qu'on avait gravée momentanément sur la cire, et on pouvait réutiliser la tablette. Alors si on voulait la conserver, il y avait une technique, on faisait deux tablettes, l'une à côté de l'autre, que l'on reliait, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on faisait une reliure entre les deux, ce qui permettait de les fermer, et ainsi d'éviter que quelqu'un vienne effacer l'écriture. Et souvent, d'ailleurs, les deux parties qui étaient refermées étaient en bois et souvent décorées, bien sûr. Ça dépendait évidemment de la richesse de celui qui utilisait ces supports d'écriture, ce qu'on appelle un diptyque, hein, en quelque sorte. On pouvait écrire aussi sur du plomb, sur des lamelles de plomb que l'on va graver. C'était souvent utilisé pour les monuments funéraires, hein. On pouvait aussi graver le cuivre, le bronze, hein. Et bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, la pierre. Alors cette pierre, on peut aussi l'aménager en déposant dessus un enduit. C'est la peinture à fresco, hein, que réutiliseront les gens de la Renaissance en Italie, mais sur le modèle évidemment de l'Antiquité romaine. Voilà quelques exemples, en tous les cas, d'instrument d'écriture, en quelque sorte, mais aussi de support de l'écriture. Celui qui nous intéresse au Moyen-Âge, c'est le parchemin. Et alors d'abord, d'où ça vient le parchemin ? Alors les origines, on pense que c'est tout simplement une difficulté économique. À une période donnée, il y a eu une grande rivalité entre la bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte, avec ses papyrus, hein, bien sûr, et celle de Pergame. Et les Égyptiens, entre guillemets, avaient ça le caractère et supportaient mal la concurrence et avaient décidé de faire un blocus du papyrus. Alors voilà donc les gens de Pergame, donc, privés de support d'écriture. Alors, le défaut de matière a toujours suscité l'intelligence des hommes. On va inventer autre chose. Hein. Et ils vont inventer le pergaméné, qui va donner pergaméné, parchemin. Le parchemin. Qu'est-ce que c'est que le parchemin ? Eh bien, tout simplement, c'est de la peau. La peau d'animal, évidemment. Encore que dans des circonstances particulières, on a utilisé de la peau humaine. C'était pas forcément les dégâts hitlériens. Hein. Mais auparavant, on n'utilise pas évidemment la peau d'une personne qu'on a tuée pour en faire du parchemin, mais c'est arrivé, bien entendu. On a plusieurs exemples. Donc, on va utiliser la peau d'un animal. Alors, il y a un gros avantage par rapport au papyrus, c'est que c'est une surface uniforme que nous avons avec cette peau. On va voir comment on la traite. Alors que le papyrus, c'était quand même un problème à cause des fibres, ce qui accrochait souvent le calame. Hein. Donc, on était obligé d'écrire que dans un sens. Pouviez pas aller, si les fibres, si le roseau était disposé horizontalement, vous êtes obligé d'écrire horizontalement, sinon ça grattait. Donc là, le parchemin, vous pouvez faire des cercles, il n'y a pas de difficulté. On verra aussi pour la conservation, hein, c'est beaucoup moins fragile. Et on peut aussi, comme pour le papyrus, le rouler, mais avec un avantage, c'est que lorsque vous roulez un parchemin, vous ne risquez pas de le détruire, alors qu'un papyrus un peu sec, lui, va être cassant hein, et risque de se briser. Et puis enfin, un autre avantage, vous pouvez écrire sur les deux côtés. Pas avec la même qualité, mais c'est quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant puisque vous multipliez par deux la surface d'écriture. C'est un combat de trouver la surface d'écriture. Ça coûte cher. Alors comment faisait-on ? Alors d'abord, on choisissait l'animal. Tous les animaux n'ont pas une peau adaptée au parchemin, ou plutôt, certains ont une peau beaucoup plus fine que les autres. Alors, on a dit que le velin, c'est-à-dire le plus beau des parchemins, était fabriqué à partir des veaux, veaux velins, hein, pas veaux en velin, mais veaux en velin, donc des veaux mort-nés. Ouais, bon, pourquoi pas. Mais il fallait beaucoup d'avortements pour faire à ce moment-là du parchemin. Donc, c'est à la limite en grande partie une légende. J'ai recherché tout à l'heure, avant de venir, combien d'animaux pour faire un livre. Bon, qu'on n'appelle pas un livre, on va le voir, on appelle ça un codex. Combien d'animaux pour faire un codex ? Eh bien, pour une Bible de taille assez confortable, je veux dire, pour la lecture, il faut compter au moins 600 moutons. Oui, vous avez bien entendu, 600 moutons. Donc, ça veut dire qu'on va faire 600 peaux de moutons. Alors, dans un premier temps, on va d'abord laisser sécher la peau au soleil. Hein. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'ébourrage. C'est-à-dire qu'on enlève les poils de la peau de l'animal, hein, que ce soit un veau, un porc, une chèvre ou un mouton. Hein. Et ensuite, on va tremper cette peau pendant des mois dans un mélange d'eau et de chaux vives pour détacher les éléments organiques, la chair qui reste, la graisse également. Je peux vous dire que j'ai fait des tentatives de fabrication de parchemin. La chaux vive, c'est un peu corrosif, il faut faire attention, il faut le laisser longtemps, mais pas trop, parce qu'après, vous n'avez plus de parchemin, vous avez de la colle. Bon, c'est intéressant, mais pour un autre usage. En tous les cas, une fois que vous avez fait ce travail, vous allez pouvoir tendre votre parchemin sur un cadre afin de pouvoir opérer la deuxième action, c'est-à-dire le grattage. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est bien, que la peau est bien tendue sur un cadre vertical, vous pouvez donc parfaire le grattage de cette peau. Ensuite, on va passer à un deuxième bain d'eau de chaux, là encore, qui va servir à affiner un petit peu ce grattage, mais aussi qui va, par la suite, être nécessaire pour affiner la peau. Parce que la peau de mouton, même si c'est un mouton qui est jeune, elle reste encore très épaisse. Elle est quand même inconfortable pour pouvoir ensuite en faire l'équivalent d'une feuille. Donc, on va poncer. Hein, toujours pareil sur un cadre. Hein, on va poncer, on va blanchir, c'est-à-dire avec de la craie ou de la chaux en poudre. Et ça va permettre toute cette opération d'absorber d'abord, je pense à la craie, ça absorbe l'excès de graisse qui continue à suinter souvent. Et d'une façon générale, on va pouvoir obtenir un parchemin qui va être d'une épaisseur tout à fait confortable pour l'écriture. On va obtenir donc deux surfaces. On a ce qu'on appelle la fleur. Alors ça, c'est du côté de la chair, c'est de loin la surface la plus confortable. Elle est parfaitement lisse. D'ailleurs, vous l'avez pensé, n'oubliez pas. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la croûte, c'est-à-dire du côté du poil. Et là, le cuir, tous ceux qui ont acheté un canapé ont déjà vu ça. Vous avez des peaux à partir de croûte, c'est-à-dire vous avez des petits bulbes qui sont visibles, c'est du côté du poil. Et de l'autre côté, la fleur de cuir, évidemment, la fleur, ça veut ça ne veut pas dire l'élément végétal. La fleur, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand on parle de fleur de lys, en réalité, on ne parle pas forcément de l'élément végétal. C'est ce qu'il y a le mieux dans le lys. Mais ça, j'anticipe, parce que ça va être le gros morceau que nous allons voir dans les émissions à venir. Donc, le mieux de la peau se trouve être, bien sûr, du côté de la chair. Alors, une fois qu'on a obtenu ce parchemin, on va voir par la suite comment on va faire pour écrire sur ce parchemin. Je voudrais quand même évoquer ce qui arrive au Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir du XIIIe siècle en France. Là encore, le parchemin est de plus en plus cher, se fait rare et on écrit de plus en plus. Il faut donc trouver, là aussi, d'autres supports de l'écriture. Et ça m'amène à parler très rapidement de l'histoire du papier. Alors disons qu'il y a une espèce de date officielle qui nous dit qu'en Chine, vers le 1er siècle après Jésus-Christ, les Chinois avaient déjà rassemblé des feuilles de papier qu'ils enroulaient le long de tiges, les fameux volumens dont on a déjà parlé. Et puis ensuite, au milieu du 8e, des prisonniers chinois auraient livré le secret de fabrication aux Arabes. Et ce sont eux qui, petit à petit, vont amener cette découverte jusqu'en Europe occidentale, en France. Et on va se mettre à fabriquer du papier, bien sûr, à partir de textiles, ce qu'on appelle le papier de chiffon, en quelque sorte. Et entre 1300 et 1400, là où la demande est vraiment très très forte, on va se mettre à fabriquer du papier. Bon, je pense qu'il y a deux régions. Il y a la région de Troyes, en Champagne, et puis ce qui correspond en gros au sud de Paris, à l'Essonne. Voilà les deux endroits où se développent les premiers moulins à papier. Donc le principe est relativement simple. On prend des chiffons de lin ou de chanvre. On découpe en charpie, en quelque sorte, en lanière. Et puis on va mettre ça à pourrir un peu. D'abord, ça s'appelle un pourrissoir, l'endroit où on laisse ces fibres, qui vont se déstructurer, en quelque sorte. Ensuite, on va les écraser. Alors au début, évidemment, c'était à coup de marteau. Mais petit à petit, on va remplacer les marteaux, les maillets plus précisément, par des piles à maillets qui sont actionnées par un moulin. Donc vous avez une espèce d'arbre à cames avec des marteaux qui tapent sur la fibre et qui petit à petit, avec l'eau, vont réduire cette fibre en une espèce de pâte à colle ou pâte à crêpe, assez épaisse. Voilà à quoi ça ressemble. Que je vais ensuite utiliser d'une façon tout à fait précise, c'est-à-dire que avec un cadre au fond duquel il y a un tamis avec un maillage extrêmement fin, je vais plonger mon tamis dans ma pâte à papier, hein, autant l'appeler ainsi, et puis je vais sortir de la cuve cette pâte à papier qui va quand même rester à la surface, les fibres de papier vont rester à la surface pendant que l'eau s'écoule. Donc j'ai donc, là vous voyez, une première feuille. Alors je vais attendre un petit peu qu'elle sèche pour pouvoir la saisir. Ensuite je vais l'empiler et je vais la presser. C'est ce qu'on appelle la porce. Hein. Et en gros, je mets des feutres, du papier, et je vais presser l'ensemble de ces feuilles pour pouvoir enlever toute l'eau qui s'y trouve encore. Ensuite, je fais comme vous faites quand vous étendez le linge, c'est-à-dire je vais prendre chaque feuille et puis je vais l'accrocher à un fil en attendant que ça sèche. Voilà, si vous voulez, la façon dont petit à petit on va remplacer le parchemin. Alors, bien sûr, là je vais un petit peu vite, évidemment, dans l'organisation du livre médiéval, mais nous allons y revenir, bien entendu.